Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Oui !
Bonjour à toi, auditeur de Radio B, et bienvenue aux chroniques des bibliothécaires. Alors aujourd'hui, on en a pour tous les goûts. Des mangas, un roman ado, un roman adulte fantastique, et bien sûr de la musique. Alors, on ouvre calepin et oreille, car c'est parti pour 20 minutes de chroniques des bibliothécaires. Des chroniques garanties virus-free, avec 0% de postillons ajoutés. Et on commence la matinée avec un gros morceau, la censure et la liberté d'expression des mangaka au Japon. Vous ne connaissez rien au sujet ? Ah, tant mieux, car c'est ce dont il est question dans le manga que je veux vous présenter. Poison City de Tetsuya Tsuitsui. Publié aux éditions Kiyun en 2015, ce court seinen, c'est un genre destiné à un public masculin entre 15 et 30 ans, a été récompensé à la Japan Expo par le prix d'Asie. Le récit prend place un an avant l'accueil des Jeux Olympiques par le Japon. Le pays, voulant faire bonne figure, est soumis à une vague de puritanisme exacerbé. Dans ce contexte, est votée une loi pour la littérature saine et la création d'une commission d'experts chargée de juger la qualité morale d'un manga. Nous suivons donc le combat d'un jeune auteur se lançant dans la publication d'un manga d'horreur. Son éditeur et lui vont rapidement se heurter à la désapprobation de la commission de censure qui jugera son œuvre nocive et voudra en empêcher la lecture aux mineurs. L'intrigue repose donc sur le choix de notre protagoniste. Doit-il sacrifier l'authenticité de son manga et s'auto-censurer pour survivre et publier ? Ou faut-il refuser les concessions au nom de la liberté d'expression et aller vers d'autres formes de publication ? Retour à la réalité maintenant. Creusons un peu plus l'intrigue. Car nous allons découvrir que ce récit de mangaka censuré est en réalité autobiographique. Oui, retour en arrière, en 2005. Tetsuya Tsuitsui publie un manga du genre thriller biologique nommé Manhole. Le titre ne fait pas de tapage particulier, les années passent, et ce n'est qu'en 2013 que le mangaka découvre que son manga a été classé comme « œuvre nocive pour les mineurs » pour le motif, attention, de « incitation considérable à la violence et à la cruauté chez les jeunes » par l'Agence pour l'enfance et l'avenir du département Nagasaki, l'une des préfectures du Japon. L'auteur apprend alors que son manga a été censuré, non pas à cause du thème abordé, mais à cause de son aspect visuel. En effet, sur les 210 pages, 27 ont été identifiées comme « à risque », ce qui place le pourcentage de nocivité du manga au-dessus des recommandations de l'agence. Bref, je vous passe les détails de ce passionnant dossier, car vous pourrez en faire la lecture et découvrir les illustrations incriminées à la fin de Poison City. Je vous recommande donc chaudement la lecture de ce manga, car, tout d'abord, le scénario tient en 2 tomes, sans se disperser. Et ça, c'est très agréable, une œuvre qui va à l'essentiel. De plus, le réalisme du récit est renforcé par un trait fin et un style graphique constant, sans exagération. La thématique de la censure et de la liberté d'expression au Japon est intelligemment abordée. Tetsuya Tsuitsui ne tombe pas dans une diatribe vengeresse, non, il présente les arguments de la commission de censure, les auteurs acceptant les compromis et à l'inverse, ceux luttant pour leurs droits. Si vous voulez approfondir vos recherches autour de la censure des mangas au Japon, je vous conseille d'emprunter dans vos médiathèques les 3 tomes de Manhole. Et si le manga ka Tetsuya Tsuitsui vous plaît, alors vous aimerez certainement sa dernière série, Noise, récemment terminée, est disponible, vous savez où. Je laisse maintenant la parole à Laurence avec une chronique roman.
Merci beaucoup Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver sur les ondes de Radio B pour vous présenter un roman classique, inclassable et intemporel que vous connaissez peut-être déjà, mais que cette chronique vous donnera, je l'espère, envie de relire. Il s'agit de La Peste d'Albert Camus. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une nouveauté, mais j'ai au moins trois bonnes raisons de vous en conseiller la lecture. D'abord, parce que c'est un très grand livre, écrit avec finesse, accessible à tous, et qui aborde des thèmes très actuels. Ensuite, parce que 2020 est l'année du 60e anniversaire de la mort de Camus, et que c'est peut-être pour certains une occasion de découvrir cet auteur hors du commun. Et aussi, parce que ce texte, écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, fait écho à ce que l'on vit aujourd'hui avec l'épidémie du Covid-19 et que c'est particulièrement troublant. Si je devais d'abord vous présenter Camus, je vous dirais qu'il est né en 1913 à Alger, que c'est un enfant des quartiers pauvres, orphelin de père et fils d'une mère illettrée et sourde, qu'il est repéré par un instituteur qui va l'encourager à poursuivre ses études malgré la tuberculose dont il souffre. Plus tard, le beau gosse à la santé fragile sera philosophe, journaliste, résistant, homme de théâtre, écrivain récompensé en 1957 par le prix Nobel de littérature et trop tôt disparu dans un accident de la route à 47 ans. C'est en 1947 que Camus publie chez l'éditeur Gallimard son roman La Peste, dont l'histoire se déroule dans les années 40 à Oran. Ce roman, très documenté historiquement et médicalement, raconte la vie quotidienne des habitants en quarantaine pendant une épidémie de peste. À travers la voix de personnages ordinaires, Camus écrit une chronique tragique en 5 actes pour parler de la peur et de la folie qui s'emparent des hommes, de l'impuissance des médecins, du déni des autorités face à la situation, des morts trop nombreux qu'on n'arrive plus à enterrer et de l'espoir d'un possible sérum qui rendrait aux habitants santé et liberté. Dans son roman dont l'histoire peut aussi être assimilée à l'expansion du nazisme, Camus nous fait réfléchir sur l'existence et découvrir à travers ses personnages toutes les possibles représentations de la nature humaine face à un fléau. Il nous dit que même impuissant, un homme peut se révolter. Ce roman sera le premier succès de Camus en librairie, reste aujourd'hui un des livres les plus vendus en France comme à l'étranger. Il révèle la grandeur et la faiblesse de l'homme dans un univers qui peut paraître absurde et invite à redécouvrir la juste mesure du monde. Camus disait de son roman La Peste qu'il peut servir à toutes les résistances contre toutes les tyrannies. Voilà, c'était ma chronique coup de cœur de La Peste de Camus que vous pourrez retrouver dans les médiathèques de Bourg et je vous laisse frissonner en compagnie d'Aurélie pour son coup de cœur ado et une histoire de monstre.
Le coup de cœur que je vous présente aujourd'hui est un peu spécial, puisque ce n'est pas le mien mais celui de Louis, qui a fait son stage de 3e à la médiathèque Césaire en février dernier. Ce sont donc ses mots et ses ressentis que vous entendrez à travers ma voix. Louis a choisi de vous parler du livre « Le réveil des monstres », premier tome d'une série de romans fantasy de Joseph Delaney destinés aux adolescents, dont le titre est « Aberration ». Nous voilà plongés dans le chaule, un monstrueux brouillard qui dévore tout sur son passage. Il a déjà englouti de nombreuses régions de l'Angleterre et continue son expansion vers le nord. Mais ce brouillard n'est pas un simple brouillard. Animaux et humains, avalés par ce nuage, sont soit tués, soit transformés en aberrations, des monstres horribles et agressifs, contraints de rester dans le chaule. Crafty, un enfant de 13 ans, est Faye, c'est-à-dire l'un des seuls qui peut aller dans cet abominable nuage sans être tué ou transformé. Il vit dans l'incertitude. Sa mère a disparu dans le brouillard et son père travaille pour le château du Lancaster où une mystérieuse guilde tente de faire reculer ses ténèbres. Il ne revient donc à la maison qu'une fois par semaine. Un jour, il propose à son fils de venir travailler avec lui. Crafty, n'ayant rien à faire chez lui et étant au milieu des monstres, plongé dans la peur toute la semaine, décide de suivre son père. Le jeune garçon va alors devenir apprenti et se rendre compte que ce métier est très dangereux et qu'il risque sa vie. Il va aussi faire la connaissance d'autres apprentis qui vont lui révéler un secret sur cette étrange guilde. Crafty va bientôt se rendre compte que cette guilde est encore plus dangereuse que les aberrations. Je vais à présent vous lire le début de l'histoire. Chapitre 1. La cave. Dans la cave envahie peu à peu par l'obscurité, Crafty écoutait les chuchotements montant des tombes de ses frères. Assis devant la table à 3 pieds, tandis que les ombres glissaient lentement vers lui, il ne quittait pas des yeux un haut placard, étroit et branlant, qui se serait effondré s'il n'avait été soutenu par le mur du fond. Il avait servi autrefois de garde-manger. À présent, il était vide. Crafty l'avait vérifié à intervalles réguliers. Mais à chaque fois qu'il avait tiré sur les portes de bois, qui grinçaient sur leurs gonds rouillés, il n'y avait rien derrière. Le garçon avait fini par laisser les battants ouverts, c'était plus simple. Néanmoins, il savait que le placard ne se remplirait plus. Le sort de transfert qui convoyait des objets sur une longue distance avait cessé de fonctionner. La magie des feuilles ne résistait pas longtemps dans le chaule. Celle qui y régnait était trop malfaisante. Après la série Arena 13 et l'épouvanteur, Joseph Delaney sort donc une nouvelle série de livres traduite par Marie-Hélène Delval et qui s'intitule Aberration. Comme toujours, Joseph Delaney plonge ses personnages dans une situation tragique. Le tout dans un univers fantastique avec des araignées géantes et autres monstres des lacs. L'univers est aussi empreint de magie car on y trouve des portails de téléportation ainsi que des sorcières. La présence du chaule et des aberrations le rappelle continuellement. Ce livre pour adolescents est simple à lire, même s'il fait frissonner quelquefois. Pour les fans de fantastique, il est parfait. On accroche vite grâce aux nombreuses phases d'action. C'est le premier tome d'une nouvelle série dont le deuxième est sorti en mars. Alors si cette chronique vous a plu, ne restez pas sur votre faim et courez l'emprunter à la médiathèque Vaillant. Un grand merci à Louis et à présent, place à la musique avec Anne. Ouh, tu es là ?
Oui, Aurélie, je suis là et bonjour à toutes et à tous. Alors, pour cette chronique un peu particulière, je vous propose aujourd'hui de faire traîner vos oreilles vers un album resté un peu inaperçu puisque, il est sorti en pleine période de confinement. Pas de peau. Et alors, ça commence comme ça. Mesdames et messieurs, vous avez dans vos oreilles la recette de The Night Chancers, le dernier album de Monsieur Baxter Durie. Basses obsédantes et obsédées, arrangement de cordes, voix féminine qui vient soutenir et souligner cette voix traînante, blasée et fortement teintée, il faut le dire, d'accent cockney, l'accent de Londres. Et cette recette, mesdames et messieurs, est à prendre ou à laisser, car il n'y a pas de demi-mesure lorsqu'on écoute Baxter Durie. Ça fonctionne, ou alors ça ne fonctionne pas du tout. A small car. Carla's got a boyfriend. I spotted him on Instagram. Followed him about a bit. Carla's got a boyfriend. A bit of designer hair. Sloppy facial looks. Carla's got a boyfriend. I might take care of him, to be honest. Promises. Dans The Night Chancers, Baxter Durie nous trimballe dans ses pérégrinations nocturnes, dans ses désillusions et sa sidération même face à ce monde-là, le monde d'aujourd'hui. Là où d'autres sombreraient dans la tristesse ou alors une joie naïve et décalée, Durie, lui, crachote. Il crachote sa colère, il critique, il dénigre de sa voix désabusée. Et alors, Baxter Durie va se muer en cet ami qui aurait perdu son flamboyant, qui râle trop et tout le temps, et qu'on aurait un peu perdu de vue, mais qui, malgré tout, nous reste attachés, contre vents et marées, contre l'adversité. On termine avec la tendre chanson « Say Nothing ».
the chances. Say nothing, say nothing, say nothing.
And now I'm the slumlord. And when you sit on the side of the motorway, rain pouring down your arches, and the cars rushing past you, and you're semi-dozing, not caring,
waiting for the life, nothing but the chances. Say nothing, say nothing, say nothing.
And I'll lie down and let the cars run over my lifeless body. Each wheel represents pain, necessary for all of us.
Waiting for the life, nothing but the chances. The chances. Say nothing, say nothing, say nothing. Baxter loves you. Baxter loves you. Baxter loves you. Baxter loves you. Baxter loves you.
Et voilà, les chroniques des médiathèques à distance, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve le mois prochain pour d'autres chroniques. À très bientôt.
Et prenez soin de vous.